Benhamed est dans les parages, nous démarrons. Je crois la voir arriver. Si Souad est présente, nous pouvons démarrer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis Daniel Sechter, responsable du service de psychiatrie au CHU de Besançon, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir pour ce congrès, cette rencontre internationale des sociétés médicales Balint. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom du comité scientifique et du comité d'organisation, mais donc juste quelques mots d'accueil pour vous remercier d'avoir choisi de venir en Franche-Comté à Besançon, pour remercier la ville de Besançon et Madame Marie-Noëlle Scheller, première adjointe au maire, nous fait l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette journée, pour remercier la région de Franche-Comté, qui est aussi un soutien de notre congrès, et puis alors pour remercier à titre beaucoup plus personnel Madame Souad Benhamed, qui est présidente du comité scientifique et du comité d'organisation, et qui s'est donnée sans compter avec son mari François, ici présent depuis plusieurs mois, pour organiser cette journée, ainsi que Monsieur Martial, le docteur Martial Olivier Curet, responsable du comité d'organisation, qui ont donc tous les deux été les chevilles ouvrières de l'organisation de ce congrès. Je tiens à les remercier très vivement, à vous dire que tout ce qui fonctionne lors de cette journée est dû, lors de ces deux journées, pardon, est dû à Souad et à Martial. Tout ce qui ne fonctionne pas, c'est de ma faute. Donc, s'il y a des soucis, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Merci aussi et surtout au président Jean Maclouf de la Société médicale Balint, qui nous fait l'honneur, le plaisir et l'amitié d'avoir choisi notre belle ville de Besançon pour tenir ce congrès. Sans tarder, je passe la parole à Madame Marie-Noëlle Scheller, première adjointe au maire de Besançon.
Merci, professeur. Alors, je ne sais pas si c'est un honneur, mais en tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de vous accueillir et de vous accueillir au nom de Jean-Louis Fousseret, notre maire, qui vous prie de l'excuser, mais en cet instant, il reçoit ses collègues au carrefour des maires, à l'autre bout de la ville. Donc, nous avons pour habitude de nous partager les accueils, et je le redis avec beaucoup de plaisir. Je voudrais vous remercier, professeur Sechter, mais aussi monsieur Matlouf, président, Madame Benhamed, dont je sais qu'elle a beaucoup œuvré pour la préparation de ce colloque, et Martial Olivier Curet. Je voudrais les remercier et les féliciter d'avoir eu la bonne idée de venir en Franche-Comté. On nous considère toujours comme éloignés de tout, difficiles à atteindre, mais en général, les gens qui sont venus gardent un bon souvenir de cette ville. J'espère que ce sera votre cas. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au nom du maire et au nom de nos concitoyens bisontins qui aiment recevoir des congrès, qui en ont l'habitude. Et merci pour nous et merci aussi pour eux. À titre personnel, d'abord, je me réjouis de voir qu'il y a un repère de parents qui m'ont déjà supporté dans une autre vie, de parents d'élèves, mais voilà, c'est agréable pour moi aussi. Mais je voudrais aussi me réjouir à titre personnel d'avoir eu la possibilité d'élargir ma culture parce que je vous avoue, bien humblement, que je n'avais jamais entendu parler de cette société médicale Balint. Je m'y suis donc intéressée et j'ai été vraiment très intéressée par cette approche originale et intéressante du soin dans la diversité de ses patients. Voilà. Donc merci de m'avoir instruite. Il me revient donc de vous souhaiter la bienvenue pour un court séjour dont j'espère qu'il sera bon. Court séjour dans notre ville, une ville dont je vais vous dire quelques mots. Besançon, capitale régionale de Franche-Comté, ça paraît aller de soi. Historiquement, ça n'allait pas de soi, ça devait être Dole. Mais Louis XIV a décidé de punir ces Daulois qui lui faisaient le front d'une résistance très marquée. Et donc, il a tout transporté, l'université, le gouvernement et tout à Besançon. Vous l'avez peut-être compris, c'est une ancienne Dauloise qui vous parle, mais qui, des siècles plus tard, a suivi le mouvement. Une situation géographique tout à fait originale et particulière qui a justifié la construction par Vauban de la citadelle qui est classée monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Une ville enserrée, un cœur de ville enserré dans le Doubs sous forme de lyre. Et puis cette colline, nous ne sommes pas à Rome, mais quand même. Donc une situation géographique tout à fait particulière qui pourra expliquer son patrimoine aussi. Il y a un patrimoine très riche, un patrimoine militaire. C'est une ville de casernes, historiquement, et aussi de couvents. La Franche-Comté a produit beaucoup de mouvements religieux, et vous le verrez dans l'architecture. Un cœur de ville aussi, j'espère que vous aurez un peu de temps pour vous y promener, même si la braderie va vous gêner beaucoup pour circuler. Ces jours de braderie, il faut que ça se fasse aussi. Un cœur de ville très particulier, avec des escaliers extérieurs, des petites cours intérieures. N'hésitez pas, les Byzantins ne seront pas choqués si vous rentrez dans leurs cours à l'intérieur. Ils seront heureux que vous vous intéressiez à la façon dont, enfin, à leur habitat. Donc, un cœur de ville sauvegardé, patrimoine sauvegardé, tout à fait intéressant. Une ville où je dis, sans embâche, qu'il y fait bon vivre, même si je dois dire que les habitants actuellement vous diront que les travaux du tram, ça nous complique la vie depuis 3 ans, mais on est bientôt au bout. Voilà, mais une ville où communiquer est relativement facile. Ville natale de grands hommes, Victor Hugo, vous le savez, les Frères Lumière, on le sait moins, qui sont partis ensuite à Lyon pour le cinéma, Hilaire de Chardonnay, le verre à soie, Fourier et Proudhon, qui ont beaucoup marqué l'histoire de notre ville en matière d'utopie sociale. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. La ville de Besançon reste très en pointe sur les questions sociales. J'y reviendrai. Elle a inventé des choses avant tout le monde. Concernant son économie, historiquement, c'est une ville industrielle, horlogère. Vous avez peut-être entendu parler de l'IPE et des mouvements de la fin de l'IPE aussi, mais qui n'a pas pris le tournant au moment du quartz, pas pris le tournant voulu, et qui donc a souffert beaucoup à un moment de son histoire industrielle, mais qui a su rebondir sur les microtechniques, il y avait de la mécanique aussi et du découpage, elle a su se reconvertir sur les microtechniques et les nanotechnologies. Nous avons d'ailleurs une pépinière d'entreprises intéressante à cet égard, y compris dans le domaine médical. On observe depuis quelques années un retour de l'industrie horlogère de luxe. Nous avons un certain nombre, dont une société importante, qui revient de Suisse, qui dit on y travaille aussi bien de ce côté de la frontière, mais on s'aperçoit que finalement, l'origine française, c'est plus intéressant encore que la Suisse. Ça nous fait plaisir, forcément, et je pense que personne n'étant là uniquement pour parler, c'est que chacun y trouve son compte. Le point fort, alors maintenant, nous avons aussi un emploi tertiaire important, l'hôpital, la clinique, des administrations de l'État, des établissements scolaires, l'université. En cela, nous ressemblons à bien des capitales régionales françaises. Le point fort, du point de vue économique, c'est que nous disposons d'une main-d'œuvre qualifiée dans la précision, très sérieuse, laborieuse, précise. On a parlé de l'horlogerie, mais il y a aussi la lunetterie à Morée. Des métiers de précision. Cette main-d'œuvre-là est très appréciée. Une ville, je vous le disais, qui est aussi connue pour ses avancées sociales, l'influence, je l'ai dit, des utopistes, Proudhon, Fourier, Claude-Nicolas Ledoux. Un contexte franc-comtois, cela s'inscrit dans un contexte franc-comtois très solidaire. C'est là qu'ont été créées les coopératives, dans le Jura, les coopératives fruitières, les fruitières, pardon, vinicoles, agricoles, céréalières, horlogères, très nombreuses. Les coopératives sont nées là, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que cet exemple est enseigné dans certaines universités du Japon. Contexte solidaire aussi, la Franche-Comté est une terre de mission, de missionnaires, et ça s'exprime aussi par une forme de solidarité ici. Alors, plutôt missionnaire catholique dans le sud du département et protestante dans le nord, avec des avancées dans le nord en matière d'éducation par le biais des protestants. Besançon a toujours été en avance sur son temps en matière sociale. C'est là qu'a été créé le MSG, ancêtre du RMI, 20 ans avant. C'est-à-dire que le maire de Besançon, ayant découvert que les femmes notamment vivaient assez mal, a créé cette allocation qui donc a été reprise des années plus tard par Rocard. Les premiers logements foyers de France, ici, en 1970, oui, dans les années 70, nous en avons 5. C'est là que le CCAS a été le premier en France, je crois, à faire un microcrédit sur ses propres fonds, notamment à l'attention des jeunes, qui sont dans une précarité importante, et leur donner les moyens de, sans s'endetter outre mesure, mais de les aider à mettre le pied à l'étrier pour leur insertion professionnelle. Alors, je ne vous ferai pas toute la liste, mais Proudhon et Fourier, finalement, ont encore de beaux jours. Alors, la force, comment, souvent, quand je suis à Paris, on me dit, mais comment est-ce que vous... je m'occupe des affaires sociales, on me dit, mais comment tu arrives à faire ça? On n'arrive jamais tout seul, forcément. La richesse de Besançon, c'est aussi une vie associative extrêmement riche, extrêmement développée, et que la ville subventionne, pas à tout craint, parce qu'on ne subventionne pas n'importe quoi, mais encourage beaucoup, parce que tout un pan, si vous enlevez la vie associative de cette ville, c'est tout un pan social, culturel, qui tomberait. Voilà. Et puis, c'est aussi sa tradition de solidarité. Une ville bien dotée au plan culturel, des musées, vous n'en aurez sans doute pas le temps, mais vous reviendrez pour cela, un musée du temps vraiment splendide, un musée des beaux-arts avec des collections uniques, deuxième musée de France à cet égard, le musée de la Résistance, une maison d'écrivains qui vient de s'ouvrir, très belle aussi, la maison de Victor Hugo, qui ne sera pas une maison natale, même si c'est bien là qu'il est né, mais c'est une maison qui va représenter, qui va illustrer tous les combats de Victor Hugo. Si vous avez 10 minutes pour y aller, ne serait-ce que 10 minutes, allez y voir, ce n'est pas très loin. Une scène nationale pour le théâtre, enfin qui comprend en fait 3 scènes, et puis surtout la musique, nous avons un festival international de musique, le concours des jeunes chefs d'orchestre, une salle des musiques actuelles qu'on a conçue pour les jeunes, mais on s'aperçoit que finalement tous les âges y vont, et c'est heureux. Une bibliothèque de conservation aussi qui est remarquable. Nous sommes bien dotés aussi au plan médical, c'est du moins ce que nous disent les Byzantins. Vous savez que les centres communaux d'action sociale doivent tous les ans faire une analyse des besoins sociaux. Cette année, nous nous sommes dit pourquoi est-ce que nous ne nous sommes jamais intéressés aux questions de santé. Donc, nous avons entrepris de mettre ça dans nos recherches. Et nous avons donc vu que la ville de Besançon est bien couverte, mais surtout que les Byzantins apprécient la couverture médicale de leur ville. Je le dis parce que c'est pas toujours... il ne suffit pas qu'il y ait pour que les gens l'admettent. Et là, il y a une satisfaction des gens dans la variété, dans l'accueil qu'on y reçoit, dans les soins qu'on y reçoit. Les Byzantins sont satisfaits de leur corps médical et de leur équipement médical. C'est une ville verte. Alors, je ne vous énoncerai pas tous les prix, parce que j'aurais l'air de vraiment être très arrogante de dire tout cela. Mais c'est une ville verte, c'est-à-dire qu'à pied du centre-ville, si vous voulez faire une promenade, vous êtes tout de suite dans la campagne. Pour la petite histoire, on y fait même la transhumance des chèvres qui vont. Nous avons un chevrier qui traverse la ville chaque année pour aller faire paître ses chèvres dans les 7 collines, ce qui nous évite aussi des frais d'entretien. Voilà. Puis je terminerai sur ces gens. Ces gens sont modestes. Très souvent, on nous dit « Pourquoi vous ne dites pas tout ce que vous faites ?» Je fais le contraire aujourd'hui, j'ai appris la leçon, il faut dire ce qu'on sait faire. Mais les gens sont modestes, ils trouvent qu'ils ont à faire, ils ont à faire bien ce qu'ils ont à faire, et si le travail est bien fait, il n'y a pas besoin de le dire, ils parlent de soi. C'est un peu, je crois, une des caractéristiques de nos concitoyens. Mais ne vous y trompez pas, ils sont tenaces et obstinés. Comtois, tête de bois. Comtois, rends-toi, nenni, ma foi. Ils ont résisté à tout, à toutes les invasions de toutes sortes. Ils n'ont pas voulu être espagnols, si, espagnols encore. Ils n'ont pas voulu être français, c'est pour ça que Dole a été puni. Ils ont résisté tout le temps. Nous sommes pendant, de façon plus proche, la ligne de démarcation passait non loin de là, et il y a toute une histoire de résistance très forte aussi. C'est un pays de résistants, avec ses forces et ses faiblesses. Mais il ne faut pas non plus s'y tromper, ce sont des gens de cœur qui sont très fidèles dans leurs paroles et dans leur amitié. Et en leur nom, je voudrais tout simplement, vous redire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir à Besançon et vous souhaiter d'excellents travaux.
Merci beaucoup, chère madame, de nous faire cet honneur et de nous accueillir avec, en effet, la qualité des francs-comtois que nous sommes un certain nombre ici à avoir apprécié. Et personnellement, je ne suis pas d'origine franc-comtoise. J'y suis resté, j'y suis heureux à Besançon. Et grâce à vous et grâce à cet accueil et à ces qualités. J'ai maintenant le grand plaisir de passer la parole au président de la Société médicale Balint, à Monsieur Jean Maclouf, qui nous a fait en effet l'honneur et le plaisir, avec les liens avec Souad Ben Ahmed, de choisir notre belle ville et région.
Oui, bonjour, je vais être extrêmement bref. Je veux d'abord remercier ceux qui ont fait, comme moi, le parcours du combattant pour venir à Besançon, parce que j'habite à Limoges et c'est la France en diagonale, c'est un poème, mais ça me permet de voir de nouveaux paysages. Je remercie à nouveau la ville de Besançon et la région de Franche-Comté de nous permettre d'organiser le 41e congrès national de la Société médicale Balint et le premier colloque international. En 2005, notre congrès était à Metz dont le thème était frontières et carrefours, sur les limites entre le dehors et le dedans, entre le corps, la pensée, tout ce qui peut séparer les uns des autres. Comment la frontière peut nous structurer, comment l'altérité nous permet de nous construire aussi. Aujourd'hui, au cours de ce colloque, nous allons aborder les migrations et les diversités. Donc c'est un autre apport, un autre regard. Je vais laisser la parole aux premières conférencières. Il y aura quand même trois groupes Balint, en principe, pour ceux qui ne connaissent pas, pour pénétrer un petit peu par l'intérieur ce que ça représente et être un petit peu dans le concret. Il y en aura deux aujourd'hui et un demain, et Souad vous expliquera quelles sont les modalités pratiques. Bon congrès, bon début, et merci de votre présence.
Parfait. Eh bien, je vais raccompagner Madame le Premier adjointe qui nous a fait l'amitié d'être présente et qui nous dit que si nous avons un souci, donc s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien à cause de moi, nous pouvons faire appel à la vie. Madame Lucky.
Elle est sur le bureau, là, voilà.
Ça, je ne sais pas faire ça. Hein? Tu ne sais pas faire.
Non. Mon Dieu.
Qui c'est qui veut rouler?
Je vais le faire. Vas-y.
Eh bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, effectivement, maintenant, j'ai le grand plaisir de modérer cette première session qui va être présentée et animée par madame le professeur Saïda Douki de Dieu. Madame le professeur Saïda Douki de Dieu nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur d'être présente parmi nous. Elle a été la responsable de l'ensemble de la psychiatrie en Tunisie avant d'être, depuis quelques années, professeure associée à Lyon. Et je peux vous dire en toute simplicité, en toute amitié, que j'ai eu le plaisir de connaître Madame Douki même avant notre internat, lorsque nous étions l'un et l'autre, un peu plus jeunes. Et donc, nous nous sommes rencontrés, connus, même avant l'internat, à l'hôpital Sainte-Anne, où nous avons même été voisins en salle de garde. Donc, j'ai des souvenirs vraiment très émus et très heureux de nos parties d'échecs chez M. Pichot, chez M. Deniker. Nous étions dans deux grandes maisons qui étaient parfois un peu en tension, mais nous étions un élément de lien, l'un et l'autre, et les qualités humaines de Madame Douki sont à l'image de ce qu'elle va nous présenter, avec des éléments qui ont été présentés par Madame Marie-Noëlle Scheller en termes de solidarité, en termes d'humanisme, dans la lignée justement de Fourier, de Proudhon, dans la lignée de Victor Hugo, où Victor Hugo a passé quand même ses 6 premières semaines à Besançon. Et nos amis pédopsychiatres nous disent bien que la fin de la grossesse et les premières semaines sont quand même essentielles pour forger une personnalité, un caractère. Donc de l'humanisme, du féminisme, et du féminisme, Saïda Doukki n'en manque pas, parce que je peux vous dire qu'en dehors de toutes ses qualités, elle a également été porteuse au niveau de l'Organisation mondiale de la santé des réflexions et de la prise en charge et du rapport sur la santé mentale et la santé psychique des femmes. Et donc tous ces éléments, toutes ces qualités font que vraiment je suis très heureux d'accueillir Saïda, et vous allez voir que ce qu'elle va nous présenter, Printemps arabe, automne des femmes, va sans doute être en lien avec son engagement depuis ses premières années d'études en Tunisie, où j'ai cru entendre et comprendre qu'elle était peut-être l'une des premières poussiéraillottes. Chère Saïda, à toi la parole, je te remercie.
Merci, merci mille fois, Daniel. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes premiers remerciements à mon ami Souad Ben Hamed, qui m'a fait vraiment le grand plaisir de m'inviter à votre réunion. Je tenais également à saluer mon ami et congénère Daniel Sechter, avec lequel effectivement nous avons partagé tant de parties mémorables d'échecs durant notre internat. Il a oublié seulement de vous dire que je le battais systématiquement. C'est pas vrai, ceci dit, mais c'était juste pour le taquiner, puisqu'il va faire de moi une poussiéraillotte. Bon, maintenant, je préfère quand même le goulag de Besançon à celui de Poutine. Maintenant, je voudrais également m'excuser d'avoir fait un petit peu intrusion dans votre congrès Balint, avec un thème qui peut paraître totalement hors sujet. Mais je pense, et ce n'est pas uniquement la militante féministe dont parlait le professeur Sechter qui parle, je pense qu'à côté du colloque singulier, cher Henriet, tous les psys, tous les médecins de façon générale, ont un rôle social, sociétal, ont un rôle majeur à jouer dans l'espace public, qu'à côté de leur fonction thérapeutique, ils ont... également une mission de promotion, de protection de la santé mentale. Et je vais essayer de vous montrer que justement, quand on milite, comme disent les Américains, quand on fait de l'advocacy, et il faut en faire dans notre domaine, pour la santé mentale, on ne peut pas être indifférent au sort des femmes. Comme en plus, c'est une question hautement d'actualité, je vais essayer de vous montrer que la promotion du statut des femmes et la promotion de la santé mentale de tous participent effectivement du même combat. Donc la question qui angoisse nombre de femmes aujourd'hui dans le monde, et pas seulement dans les pays concernés par le dit printemps arabe, et de savoir si elles n'en seront pas les premières victimes. Alors évidemment, vous savez que durant l'année 2011, le printemps arabe, entre guillemets, a balayé en quelques semaines des dictatures installées depuis des décennies et jugées inexpugnables, comme la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, et j'espère que la liste n'est pas exhaustive, que ces révolutions ont été conduites par des jeunes gens qui réussirent à rallier la population, tous âges et sexes confondus, et que les mots d'ordre étaient surtout liberté, dignité, démocratie, comme on peut le lire là sur les murs de Tunis, à Tunis, Hurriya, Freedom, liberté. Toutefois, à la faveur des premières élections dites libres, ces révoltes spontanées, sans encadrement, sans directive, sans leaders, ont été récupérées, d'autres diront confisquées, volées, par les professionnels de la politique les mieux structurés, dans une opposition de dizaines d'années, en l'occurrence les islamistes. Et malgré le rôle majeur et reconnu des femmes au cours du printemps arabe, les premières prises de position des islamistes au pouvoir exprimèrent sans ambiguïté leur projet d'établir une démocratie toujours entre guillemets, en fait une théocratie, où les femmes ne seraient que des citoyennes de seconde zone. La première mesure, dont on peut d'ailleurs contester l'urgence, fut d'autoriser le port du foulard dit islamique, vous en connaissez quelque chose, sur les photos d'identité, avant d'ouvrir un débat souvent houleux, vous en avez houleux et violent, vous en avez probablement entendu parler, sur le port du niqab, c'est-à-dire cette espèce de voile intégrale, dans l'espace public, y compris universitaire. Même débat houleux sur l'éligibilité des femmes à la présidence de la République ou la restauration de la polygamie. Et la dernière fut que l'article 28 du projet de constitution, on en est encore au projet, dispose que, je cite, « l'État assure la protection de la femme ». Je savais qu'on protégeait les femmes et les enfants, mais enfin là, la protection de la femme dans ses acquis sur le principe de complémentarité, nous allons y revenir à ce terme, avec l'homme au sein de la famille et en tant qu'associé de l'homme dans le développement de la patrie. Parce qu'en effet, il ne saurait, et je cite, y avoir d'égalité absolue entre l'homme et la femme, et qui a proféré cette assertion ? La vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, qui est une professeure d'université née et élevée en France, une Tunisienne. Alors le psychiatre va s'arrêter quand même deux secondes parce qu'il ne peut pas ne pas être interpellé par ces deux termes, complémentarité et associé. Associé d'abord, effectivement, bon, c'est très joli quand on entend le terme associé, mais c'est à quel taux ? C'est 0,1% ou c'est 50% d'association ? Et surtout de complémentarité. Bon, évidemment, moi je me réjouis en tant que psychiatre de cet aveu, certainement de toute façon involontaire, d'incomplétude pour revendiquer la femme comme complément, de quel manque indicible. Malheureusement, je crois qu'il faut les prendre vraiment au premier degré et non au second, comme l'ont fait les Tunisiennes qui ont défilé, voilà, avec ces pancartes. Je suis une entité, pas un complément. Nous sommes quand même mieux lotis qu'en Égypte, où les premiers débats de la nouvelle Assemblée constituante portèrent sur le rabaissement de l'âge au mariage de 18 à 14 ans, le rétablissement de la répudiation et, alors mieux encore, la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec une épouse défunte. Alors on a discuté mais des jours et des jours sur le nombre d'heures qui suivent le décès. Et finalement, on a convenu que ce serait 6 heures après le décès. Je ne parle pas de la recrudescence des viols. Alors, est-il possible de concevoir une démocratie sans femmes ? Oui, puisque depuis la naissance de la démocratie et jusqu'à une date récente, les femmes ont systématiquement été exclues de la vie publique dans tous les pays du monde. Elles ont été les dernières à conquérir les privilèges de la pleine citoyenneté et encore pas partout. Cette conquête a été tardive. Le droit de vote a été accordé aux femmes pour la première fois, très récemment, en 1893, et en Nouvelle-Zélande, et d'éligibilité en 1919. En France, seconde mère de la démocratie après Athènes, en 1944, 100 ans après les hommes. Et dans le dernier canton suisse, là, juste à côté, en 1972, un des pays les plus développés au monde. Alors que dire des pays arabes ? Le droit de vote n'a été accordé aux femmes qu'en 1999 au Qatar, donc à la veille du 21e siècle, en 2003 à Oman, en 2005 au Koweït, mais refusé par les tribunaux islamiques, et en 2006 aux Émirats arabes unis, normalement limité jusqu'en 2010, mais on n'en a pas entendu parler. Et certains pays accordent le droit de vote aux femmes, mais posent des restrictions ou des conditions. À certains endroits, elles doivent donner la preuve d'un niveau d'éducation suffisant, ce que les hommes n'ont pas à faire. Évidemment, eux, ils naissent pourvus de tous les atouts qui leur permettent de voter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est le seul pays au monde à ne pas accorder le droit de vote aux femmes, mais il faut dire qu'ils n'ont que des élections municipales, et depuis 2005. Bon, on peut toujours espérer. Alors, la Tunisie est le premier pays arabo-musulman à avoir accordé le droit de vote aux femmes et le second pays musulman après la Turquie, qu'il avait fait dans les années 30. Faut-il s'étonner qu'elle ait été l'initiatrice du printemps arabe ? Certainement pas. Mais ses acquis sont aujourd'hui menacés. regarder une des nombreuses photos, vous voyez, de femmes de tous âges, de femmes voilées, qui donc dénoncent le bilan d'une révolution volée, le terme, les femmes sont violées et les petites filles voilées. Et effectivement, les fillettes ne sont pas épargnées par la vague islamiste. Regardez, non seulement elles ne sont pas épargnées, mais elles sont même manipulées. Regardez cette adorable petite fille à gauche, bon, qui dit « Stop French Hijab », bon, qui est censée porter la dénonciation des lois françaises contre le hijab. C'est quand même quelque chose. Bon, et là, c'est le hijab nour, c'est-à-dire son hijab, c'est la lumière. Alors, quand on voit l'expression de ces gens qui, pour moi, évoquent tout simplement la pédophilie et pas autre chose. Et c'est comme ça que l'histoire peut avancer à reculons. Regardez cette image qui, pour moi, est dramatique. Elle me fait très mal au cœur. C'est-à-dire, en plus d'un demi-siècle, la Tunisie a reculé. Regardez, depuis Bourguiba, le premier président de la République tunisienne, qui lui-même se faisait appeler l'émancipateur de la femme tunisienne, recevait les premières femmes découvertes. Bon, et plus de 50 ans plus tard, le nouveau président, heureusement simplement intérimaire de la République tunisienne, qui, je le rappelle au passage, est professeur en médecine et en France, enfin, l'a été pendant longtemps, reçoit une femme en niqab, en voile intégrale, et lui remet, je ne sais pas quoi, un diplôme probablement pour avoir fait avancer la cause de la femme. Alors, effectivement, mais ça c'est ma petite pique à moi, récemment ce cher président, ainsi que le président de la Constituante et le Premier ministre, se sont fait huer et chasser par les colibés par la police nationale, bon, à l'occasion d'une cérémonie commémorative. C'est vous dire l'ambiance qui règne. Mais votre Olympe de Gouges l'avait déjà dit, et avait été guillotinée pour ça en 1793. Je remarque que dans les luttes, les femmes doivent toujours lutter deux fois plus que les hommes. Elles font toujours tout deux fois plus que les hommes, alors pourquoi pas les luttes? Une fois avec les hommes, pour le changement de régime, et la deuxième fois, pour qu'elles ne soient pas en reste du changement. Alors donc, je vais certes bien sûr défendre l'égalité, mais je ne vais pas la défendre en tant que telle, car l'inégalité est indéfendable pour moi. Je ne vais pas la défendre au seul nom des droits de l'homme, qui n'engage que ceux qui y croient, comme on le dit, et certainement pas les intégristes qui les limitent précisément aux hommes, mais avec un petit h. Ce qu'ils sont tous, à mon avis. Excuse-moi, Daniel. Mais je vais montrer que la discrimination contre les femmes se paye au prix le plus fort par les sociétés qui continuent à l'exercer. D'abord, elles menacent directement leur santé, voire leur vie et celle de leurs enfants. Elles entretiennent le sous-développement d'un pays et elles font le lit de la dictature. Donc, l'émancipation des femmes est un enjeu majeur de santé, c'est ce qui est le plus important pour nous, qui sommes des professionnels de santé. Un rapport du Fonds des Nations Unies d'aide à la population, paru en 2003, titré, je cite, « La discrimination contre les femmes est une question de vie et de mort ». Quelques chiffres terrifiants. 100 millions de femmes sont aujourd'hui portées manquantes dans le monde, victimes d'avortements sélectifs ou de décès prématurés par infanticide ou négligence. Évidemment, grâce au progrès maintenant de l'échographie obstétricale, on peut connaître le sexe de l'enfant et provoquer donc des avortements sélectifs. Si jamais on n'a pas eu cette chance d'avoir une échographie, eh bien, on laissera la petite fille mise au monde mourir par infanticide carrément, donc volontairement ou par négligence. Elles seront 2 millions supplémentaires à ne pas naître cette année. Selon les meilleures estimations, toutes les 4 minutes, une petite indienne meurt à cause de la discrimination sexuelle. 2 millions de petites filles meurent de faim chaque année, de faim, parce que leurs parents ont préféré nourrir et soigner leurs frères. Alors que la préférence pour les garçons est condamnée par l'islam, est fermement condamnée par l'islam. Je vous cite juste un hadith, c'est-à-dire un dire du prophète. Quiconque a une fille et ne l'enterre pas vivante, puisque c'était la coutume avant l'islam, ne la blesse pas et ne lui préfère pas le fils. C'est donc vraiment clairement exprimé. Dieu l'accueillera dans son paradis. Et pourtant, je cite une dépêche de l'AFP du 17 janvier 2011, donc juste autour de la Révolution, « l'infanticide ne cesse d'augmenter dans la conservatrice République islamique du Pakistan. 1210 bébés ont été abandonnés ou tués dans le pays en 2010, contre 999 en 2009, etc. » Donc vous voyez, la courbe est asymptotique. « La plupart sont âgés d'au moins d'une semaine et 90% des enfants trouvés morts sont des filles. » Mais vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler de ce que j'appelle l'infanticide social ou la mort civile. Un enfant sur deux, vous vous rendez compte, surtout de sexe féminin bien sûr, n'est pas déclaré à la naissance dans le monde, soit 60 millions d'enfants par an, qui n'ont ainsi aucune existence juridique, avec toutes les conséquences dramatiques que cela suppose. Et entre autres causes, il y a plusieurs causes, bien sûr, la non-accessibilité aux services d'état civil, leur inexistence, etc. Mais entre autres causes très importantes, l'interdiction faite aux femmes de déclarer leur enfant à l'état civil. Pour ceux qui survivent, heureusement la majorité, la vie reste quand même toujours menacée. Selon une étude pakistanaise, 25% des nouveau-nés de sexe féminin sont sous-alimentés et exposés aux risques conséquents de retard de développement staturo-pondéral et d'insuffisance de défense immunitaire contre les infections. Quand ces enfants survivent et se marient, elles peuvent devenir une des 30 000 femmes qui meurent en couche chaque année. En Afghanistan, c'est 40% des femmes afghanes qui meurent en couche, selon Physicians for Human Rights. Vous remarquerez effectivement que les accouchements se passent dans des conditions d'hygiène tout à fait propices. Mais les violences ne s'arrêtent pas à la naissance. Toutes les secondes, une petite fille est excisée, avec des conséquences parfois fatales et toujours dramatiques, y compris dans les pays musulmans, alors que ça n'est absolument pas une prescription religieuse. En Égypte, ce taux atteint 85%. Toutes les minutes, une femme meurt en couche faute de soins appropriés. Toutes les 2 heures, une femme est brûlée vive en Inde. Tous les ans, 5000 femmes sont victimes de crimes d'honneur, entre guillemets, surtout bien sûr dans les pays musulmans, mais également dans des pays occidentaux à forte communauté musulmane, comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Et la liste n'est pas exhaustive. Évidemment, les viols collectifs qui, eux, sont devenus une arme de destruction massive. Le trafic de femmes. 3 millions de filles et de femmes sont prisonnières de l'esclavage sexuel. Les violences sexuelles. 75 000 viols de femmes en France chaque année. L'exécution de femmes pour rapports sexuels illicites dans les pays musulmans, etc. Alors là, je vais vous montrer quelques photos terribles, justement, de lapidation. Celle-là, juste pour vous montrer que les femmes participent quand même, si vous voulez, à la torture, à l'exécution, au meurtre barbare d'autres femmes. Et celle-là, qui est encore plus intéressante, c'est pour vous montrer la taille des pierres. Regardez, les pierres ont à peu près toute la même taille qui est précisée dans la Constitution, la taille des pierres. En effet, il ne faut pas qu'elles soient trop petites, parce qu'elle ne ferait pas trop de mal, elle ne ferait que blesser. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop grosse, parce que ça écourterait le plaisir. Et enfin, la violence domestique. Les femmes sont 10 fois plus exposées que les hommes à être agressées par un familier. Bien que rare, étant donné le tabou attaché à ce sujet, les études dans certains pays arabes ont montré que la violence maritale était très fréquente, contrairement aux idées généralement véhiculées. Une femme sur trois rapporte au moins un abus physique depuis son mariage. J'ai colligé là quelques études faites, vous voyez, en Égypte, en population générale, sur quand même un échantillon de 15 000 personnes, en Tunisie, en Palestine, sur différents échantillons, soit de population générale, soit de population hospitalière ou de consultants dans des centres de santé de base. Et nous retrouvons, de façon étonnante, vraiment le même taux, le tiers. Mais il faut dire que la violence domestique tue partout. Des dizaines de milliers de femmes tombent chaque année sous les coups de leurs partenaires. En France, une tous les 3 jours. Récemment, ce serait passé à 2 jours. Enfin, disons que c'est entre 2 et 3 jours. Aux États-Unis, 4 par jour. Aux États-Unis, le nombre de femmes tuées par leur mari au cours des 10 dernières années a dépassé le nombre de soldats tués au Vietnam. Et je n'ai pas vu vraiment, contrairement aux soldats tués au Vietnam, de monuments érigés à leur mémoire. Au Bangladesh, les meurtres de femmes par leur mari représentent la moitié de tous les cas de meurtre. Dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle « La moitié du ciel », puisque c'est l'expression consacrée en Chine pour qualifier les femmes, écrit en 2009 par Christophe et Houdoun, deux grands reporters, qui ont eu d'ailleurs le prix Pulitzer, il conclut « Ces 50 dernières années, plus de femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes que d'hommes ne l'ont été sur les champs de bataille du XXe siècle. » Et l'élimination, ils en infèrent que l'élimination quasi systématique de la femme à venir est en marche dans une grande partie de l'Asie. J'ai trouvé ça sur Internet, vous voyez, les 3 mots les plus meurtriers dans beaucoup de parties du monde sont « it's a girl », c'est une fille. Maintenant, en dehors de ce risque vital, qui est évidemment tragique, mais qui ne concerne heureusement pas la majorité des femmes, par contre, la discrimination menace la santé des femmes et celle de leurs enfants, et ça en très très grand nombre. Toutes les études épidémiologiques ont formellement établi que les femmes paient un lourd tribut aux troubles mentaux. En plus des troubles qui leur sont spécifiques, comme le syndrome prémenstruel, le trouble dysphorique prémenstruel, la dépression du postpartum, et qui sont donc liés à leur vie génitale, les femmes sont partout dans le monde plus exposées que les hommes à un grand nombre de troubles mentaux, tels les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les conduites suicidaires, les troubles somatoformes, les troubles des conduites alimentaires. Dans ce tableau qui récapitule un petit peu, selon un grand nombre d'études, la prévalence selon le sexe des principaux troubles mentaux, vous remarquerez que, en ce qui concerne les troubles dits sévères, comme les troubles bipolaires ou la schizophrénie, vraiment le sexe ratio est de 1. Donc, les troubles à forte, disons, connotation ou assise ou participation biologique. Il n'y a aucune différence entre les sexes. Le sexe ratio est de 1. Alors que vous avez des sexes ratios de 2 pour les troubles les plus fréquents, qui sont les troubles dépressifs et les troubles anxieux, qui font à eux deux près de 60% de la prévalence des troubles dans la population générale, et ne parlons pas donc des troubles des conduites alimentaires 10 fois supérieurs. C'est-à-dire que finalement, pour les hommes, il n'y a que les troubles addictifs et la personnalité antisociale qui soient légèrement plus prévalents. Alors, les études sont rares dans les pays arabes et musulmans, mais leurs résultats concordent avec les données internationales. Une enquête épidémiologique en Iran a montré que les troubles psychiatriques étaient 2 fois plus fréquents que chez les femmes, 14,34%, que chez les hommes, 7,34%. Et c'est pour ça que l'OMS considère que la dépression est le plus lourd fardeau morbide des femmes, toutes pathologies confondues. Parce que les femmes y sont au moins 2 fois plus exposées que les hommes à développer des troubles dépressifs qui sont la première source de handicap dans le monde. Et la gravité de la dépression est liée surtout à son potentiel suicidaire et à son impact sur la santé des enfants. Les comportements suicidaires, confirme l'OMS en 2009, représente un problème majeur de santé publique pour les jeunes filles et les jeunes femmes à travers le monde. Elle représente la cinquième cause de mortalité dans la tranche des 25-44 ans avant les accidents de la circulation. À mon avis, elle ne donne pas lieu au même traitement médiatique, en tous les cas, et encore moins politique, que les accidents de la circulation. En pays musulmans, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours considéré que la religion islamique, le sexe féminin, sont à la limite des facteurs de protection en matière de conduite suicidaire. Eh bien, nous assistons, depuis au moins une dizaine d'années, à une montée en fréquence des suicides parmi les jeunes femmes dans des pays véritablement islamiques, dont l'Arabie saoudite, l'Iran, le Pakistan, la Turquie. Par exemple, l'incidence des suicides par ignition à Ispahan, en Iran, est 3 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et ces suicides concernent surtout des femmes très jeunes, âgées en moyenne de 21 ans. Et ça, c'est une revue de la littérature assez récente, de 2010. L'auteur incrimine ce qu'il appelle les 4 M. M comme méthode létale, parce que généralement, elles utilisent des insecticides et des poisons vraiment hautement toxiques, ou bien carrément la pendaison. M comme trouble mental, généralement à l'occasion et à la faveur d'un épisode dépressif. M comme mariage forcé, évidemment. Et M comme domination masculine. Et conclut, ce que révèlent ces conduites accomplies par des femmes jeunes, c'est la souffrance insoutenable de ces femmes dans des sociétés patriarcales conservatrices. Mère déprimée, enfant en danger. Une femme sur 10 développe une dépression dans l'année qui suit la naissance d'un enfant. La dépression du postpartum. La dépression maternelle peut affecter sévèrement les interactions entre la mère et le nourrisson et perturber le développement psycho-affectif de l'enfant, entraînant des retards de développement et exposant au risque d'apparition de troubles psychiatriques. Ces troubles peuvent affecter, selon une étude récente, le tiers, 34% des enfants de mères dépressives, au moment où la mère est dépressive, et le risque sur la vie s'élève à près de la moitié, 45%. Je vous montre cette photo pour vous demander, pour nous demander quelles interactions sont possibles entre une mère ainsi couverte, fantomatique, et un enfant. Mais regardez le regard des enfants. Regardez ce regard. Il n'y a aucune interaction visuelle. Il n'y a pas de contact avec la peau de la mère, avec l'odeur de la mère, avec la voix de la mère. Donc toutes ces interactions sont tellement perturbées que je ne m'étonne absolument pas, moi, de voir des enfants squelettiques, au regard, mais effarés. Regardez ces petites filles, voilées dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ont-elles l'air si heureuses et si épanouies? Regardez cette photo d'un enfant en Afghanistan. Ce qu'il sait reproduire, c'est un homme qui tire une balle dans la tête d'une femme. C'est dire que par-delà les facteurs biologiques qui sous-tendent le processus morbide, des facteurs psychosociaux contribuent incontestablement à la vulnérabilité accrue des femmes à la dépression, surtout dans les sociétés traditionnelles. C'est ce que l'OMS affirmait un peu tard, d'ailleurs, en 1998. La santé des femmes est inextricablement liée à son statut dans la société. Elle pâtit de la discrimination et bénéficie de l'égalité. En 2007, encore plus récemment, le rôle traditionnellement dévolu aux femmes dans les sociétés les expose davantage au stress, charge de travail, dépendance économique, discrimination, violence. En 2009, dans certaines cultures, les inégalités sociales et l'appartenance à des familles patriarcales sont des facteurs de risque du comportement suicidaire féminin. De fait, en 2000, la prévalence globale des états dépressifs majeurs dans quelques pays du Moyen-Orient a été estimé à, disons, 2700 et 1800 pour respectivement 100 000 femmes et hommes. clairement plus élevée que la moyenne mondiale, selon une étude de 2004. Toutefois, le sexe ratio varie selon les pays. Ainsi, en Tunisie, un pays plus moderne, le sexe ratio est de 1,2, alors qu'aux Émirats arabes unis, un pays plus conservateur, il est de 6. Je cite Rezaian, mais je vais vous montrer les résultats de cette étude que nous avons menée, que j'ai menée avec des collaborateurs en Tunisie, donc sur un échantillon représentatif de la population, de la population générale en Tunisie, ça a concerné 5000 personnes à peu près, âgées de plus de 15 ans. Et aux Émirats arabes unis, avec exactement la même méthodologie, un échantillon d'environ 1300 personnes. Et nous avons utilisé le CIDI, le Composite Interview Diagnostic de l'OMS, donc le même instrument de mesure pour évaluer la dépression majeure et la schizophrénie. Alors, vous voyez qu'en matière de schizophrénie, nous avons vraiment pratiquement la même incidence et exactement le même sexe ratio. Là encore, parce que c'est une pathologie très probablement biologique. Par contre, en matière de dépression, regardez la différence entre la Tunisie, effectivement, où le statut de la femme a toujours été d'avant-garde, et les Émirats arabes unis, bon, où est appliquée la charia. La prévalence de la dépression est 6 fois supérieure chez la femme que chez l'homme. Alors qu'en Tunisie, la différence est à peine de 1,2. Bien sûr, on peut parler de nombreux biais méthodologiques, mais il est incontestable, je veux dire, que cette différence remarquable est à mettre aussi sur le compte de la différence de statut des femmes dans les deux pays. Alors, quelques remarques conclusives, maintenant qu'on a mis en relation un petit peu le statut de la femme et sa santé mentale. Le professeur Okacha, qui a été président de l'Association mondiale de psychiatrie en 2012, a fait cette année au Caire, d'ailleurs, une conférence sur les déterminants sociaux de la santé mentale dans le monde arabe. Et parmi les solutions qu'il a proposées, les solutions prioritaires, il a mis en premier lieu l'émancipation des femmes. Mais ce n'est pas seulement un enjeu de santé. L'émancipation des femmes est également un enjeu de développement. Et le président Bourguiba l'avait parfaitement compris, que la participation des femmes à la vie publique était une condition nécessaire au développement du pays, car, je cite, « une société qui se prive de la moitié de ses membres est comme un corps frappé d'hémiplégie. Donc, sévèrement handicapé et condamné à stagner, voire régresser, et dans le meilleur des cas, à claudiquer. » Un historien de l'islam américain, historien de l'islam Bernard Lewis, avait noté au XVIIIe et XIXe siècle, lorsque les musulmans ont pris douloureusement conscience du fait que l'Occident les avait dépassés, ils se sont mis à débattre des causes de leur déclin, pour lequel ils ont évoqué toutes sortes d'explications militaires, politiques, économiques, sociales. Dans les années 1860, un auteur turc nommé Nami Kemal a avancé pour la première fois une idée nouvelle. « Si nous sommes tellement en retard, expliquait-il, c'est en raison de la manière dont nous traitons nos femmes. Nous nous privons des talents et des compétences de la moitié de notre population, notamment en abandonnant son éducation à des mères ignares et opprimées. » Il avait raison. Le traitement de la population féminine par les Occidentaux n'a pas toujours été un modèle d'égalité, mais il est très supérieur à ce qui se pratique dans le monde musulman. Et c'est pourquoi, parmi les objectifs du millénaire pour le développement, parce que l'ONU s'est fixé 8 objectifs du millénaire pour le développement, parmi lesquels l'éradication de l'analphabétisme, de la faim, de la pauvreté, des maladies épidémiques, figure l'égalité entre hommes et femmes. C'est dire qu'effectivement, elle est encore loin, loin, loin d'être atteinte et que la Banque mondiale, sur le plan vraiment purement économique et développemental, dit, je préfère le dire en anglais parce que le jeu de mots est beaucoup plus joli, mais en d'autres termes, si le développement n'est pas sexué, il sera mis en danger. If development is not engendered, it will be endangered. Et je trouve ça vraiment tout à fait juste. Mais Kemal Atatürk, donc le père de la nation turque, avait déjà dit il y a un siècle Mais pourquoi nos femmes, il y a plus d'un siècle, non, un siècle, mais pourquoi nos femmes s'affublent-elles encore d'un voile pour se masquer le visage et se détournent-elles à la vue d'un homme ? Cela est-il digne d'un peuple civilisé ? Camarades, nos femmes ne sont-elles pas des êtres humains doués de raison comme nous ? Qu'elles montrent leur face sans crainte et que leurs yeux n'aient pas peur de regarder le monde. Une nation avide de progrès ne saurait ignorer la moitié de son peuple. Enfin, je pense que l'inégalité entre les genres favorise la dictature. Vous remarquerez un strict parallélisme entre le statut inférieur des femmes et le déficit démocratique. Ce sont effectivement les pays les moins démocratiques qui réservent ce genre de statut aux femmes. Et, justement, à titre d'exemple, Franco avait aboli le droit de vote des femmes en Espagne en instaurant la dictature. Je trouve que c'est vraiment très parlant. Parce que là où les sociétés oppriment les femmes, là où les familles oppriment les femmes, les gouvernants finissent par réprimer tous les citoyens. Condorcet disait effectivement où il y a des droits pour tous, où il n'y a de droits pour personne. Et la famille patriarcale est vraiment une école de la soumission et de l'inégalité. Les hommes sont supérieurs aux femmes, les seniors sont supérieurs aux juniors, il faut toujours, bon, les aînés, toujours place aux aînés, les parents sont supérieurs aux étrangers, etc. L'égalité, seule l'égalité est une garantie de démocratie, parce qu'effectivement, l'égalité entre les genres est la première promesse d'égalité entre les humains. Une mère qui est une esclave ne peut que nourrir au biberon son enfant de cette soumission. Bakounine disait « La liberté des autres étant la mienne à l'infini. » Et Condorcet, comme je vous le disais, « Où aucun individu n'a de droit, où tous ont les mêmes. » Je veux dire, si la démocratie ne règne pas déjà en milieu familial, elle ne règnera jamais dans le pays. Un des autres enseignements et de messages que je voulais effectivement faire passer, c'est que nous sommes là, nous parlons plus de tradition que de religion. La position subordonnée des femmes est plus en rapport avec les traditions qu'avec les enseignements islamiques, comme le disait un très grand théologien pakistanais, Badawi. Quel que soit le sujet, il faut clairement distinguer les enseignements de l'islam des diverses pratiques culturelles des musulmans qui peuvent être totalement discordantes, et c'est le cas en matière de statut des femmes. Et la solution, pour moi, parce que le grand slogan évidemment des radicaux islamistes, c'est de ramener les femmes à la maison. Alors mon slogan, à moi, c'est de ramener les hommes, alors je préfère dire les pères à la maison. Mais pour les provoquer, je dis ramener les hommes à la maison. Parce que la véritable inégalité, à mon avis, et que j'explique longuement dans mon livre, qui est à la source de tous les maux, est la supériorité incontestée des mères sur les pères dans l'espace privé, et surtout dans l'éducation des enfants, partout dans le monde, et surtout dans les pays arabo-musulmans, où les enfants, en particulier les garçons, sont livrés sans partage aux mères jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Je ne sais pas si certains d'entre vous, qui ont mon âge en tous les cas, parce que le film commence à dater, ont vu cette œuvre cinématographique tunisienne qui avait été primée, d'ailleurs je crois, au Festival de Cannes, et qui s'appelait « L'oiseau des terrasses », et qui mettait en scène, entre autres, justement, l'évolution d'un enfant prépubère dans un milieu traditionnel tunisois, et entre autres, qui allait, comme il était de coutume, et comme il est encore de coutume, par exemple, en Tunisie, qui allait au hammam, au bain mort, donc, avec sa mère, donc avec les femmes, jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Hein. Donc, jusqu'à ce que, effectivement, la patronne du bain mort le foute à la porte en disant ça y est, tu commences à avoir un regard, disons, peu innocent vis-à-vis des femmes. Donc, vraiment, les garçons baignent dans un monde de femmes pendant très, très, très longtemps. Et je vous rappelle uniquement ce que disait Freud de ces années décisives. Faites-y bien attention. Le plus curieux dans la vie de l'enfant me paraît être ceci. Il accomplit toute son évolution dans les 5 premières années de sa vie. Et moi, je pense que personnellement, cette absence du père pendant ces 5 années fatales de la vie du garçon, ce père qui ne vient pas trianguler, qui ne vient pas séparer, qui ne vient pas couper cette relation quasi fusionnelle entre la mère et le fils, ouvre au garçon surtout une traversée, mais alors totalement houleuse, de l'Œdipe, dont il sort parfaitement meurtri, la fille également, pour d'autres raisons. Et c'est de cette Œdipe dont il sort meurtri, et cette Œdipe véritablement meurtrier, que nous sommes, à mon avis, en train de payer beaucoup plus tard, parce que pour pallier l'absence du père et la carence de la mère, je crois qu'il faut un dieu absolument tout-puissant, une loi tout aussi archaïque, mais tout aussi féroce que celle de la mère, ou plus encore. Effectivement, où sont les pères? Ça, c'est une étude que nous avons également menée sous l'égide de la Ligue arabe dans tous les pays arabes. En Tunisie, en tout cas, sur un échantillon de 7000 familles, ce qui n'est pas rien, pour évaluer un petit peu la participation des pères et des mères dans à la fois donc, l'élevage, l'éducation, la scolarisation, la santé et même la sanction des enfants. Et regardez, alors contrairement à ce que vous aurez pu penser, le rose c'est les hommes. Pour une fois, j'ai voulu changer. Pourquoi les femmes seraient-elles tout le temps en rose et pas les hommes? Bon, donc, et comme vous voyez, et comme le vert c'est la couleur de l'espérance, j'ai mis les femmes. Donc, comme vous voyez, les femmes sont au moins 2 à 4 fois plus impliquées, aussi bien dans l'éducation, c'est-à-dire l'élevage, la scolarité, alors qu'elles sont en majorité analphabètes, la santé et même les sanctions. Parce que d'habitude, bon, le fouet, c'est l'homme, c'est le papa. Non, même la sanction, c'est la mère. Et même en France, je vous rappelle que M. Laurent Fabius, qui est un crâne d'œuf, qui n'est pas n'importe qui, ancien Premier ministre, s'était spontanément exclamé « Mais qui va garder les enfants ?» quand la malheureuse Ségolène Royal avait annoncé son intention de se porter candidate au présidentiel. Je ne l'ai pas entendu dire la même chose de François Hollande. Mais peut-être qu'en 5 ans, les enfants avaient grandi. Ils n'avaient plus besoin ni de mère ni de père. Ça doit être ça. C'est vous dire que pour moi, vraiment, il faut faire place au couple père-mère. C'est seulement dans un modèle de rapport d'égalité et de complémentarité, cette fois, mais dans le cadre de l'égalité, de dialogue et d'échange, de prise et de partage de responsabilités que leurs parents leur offriront, que les hommes et femmes de demain seront des citoyens égaux en droits et en devoirs dans une société démocratique. C'est seulement quand le père prendra sa place aux côtés de la mère dans le foyer, dans l'espace privé, et que la femme rejoindra l'homme dans l'espace public, qu'adviendra la République des citoyens. Je conclurai avec un collègue, Nourdine Saïdi, qui est aussi leader politique en Algérie. C'est autour de la femme que va se jouer la démocratie, disait-il, le 17 mars 2011. Moi, je dirais que le couple est l'avenir de l'humanité, comme c'est extrait dans le texte sacré, notre texte sacré, et de toute chose, nous avons extrait un couple, puissiez-vous vous en souvenir, et de ça dépendra la société dans laquelle nous voulons vivre, et je vous remercie.
Merci beaucoup, ma chère Saïda. Je vous avais dit que je pensais qu'elle allait nous faire part d'un discours engagé. Et je pense que tu ne nous as pas déçus. Tu ne m'as pas déçu du tout. Je te reconnais bien. Et effectivement, nous avions la possibilité de partager nos gains au jeu d'échecs. Et c'était une bien meilleure complémentarité, en effet, que les compliments que tu as décrits tout à l'heure. Alors, nous avons la possibilité, le plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tous ces sujets qui sont, je pense, essentiels et qui, à mon sens, ne sont pas du tout hors sujet par rapport justement à la journée et par rapport aux éléments que nous souhaitons discuter, même c'est complètement dans le lien avec la présentation de Madame Marie-Noëlle Scheller, avec le fait, comme je disais, que Victor Hugo a passé ses 6 premières semaines ici à Besançon. Qu'en aurait-il été si, en effet, sa mère avait porté un niqab, hein, qu'en aurait-il été au niveau des interactions précoces? Et donc, pour lancer les éléments de discussion, moi, justement, quand tu dis les enfants jusqu'à 6-7 ans sont avec leur mère, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une société patriarcale ou d'une société matriarcale?
Non, mais moi, j'appelle... C'est une société franchement matriarcale, mais c'est une société pseudo-patriarcale. C'est un patriarcat de façade. Non, c'est évident. La toute-puissance de la mère, je pourrais vous multiplier les exemples, mais j'en donnerai un seul. Il y a un bon nombre d'années, un chroniqueur qui tenait la chronique d'un hebdomadaire chaque semaine, à un moment, il était question régulièrement, il y avait des petites fièvres un petit peu de poussée, de fièvre démocratique en Tunisie. Et il avait écrit, je me demande pourquoi les Tunisiens cherchent la démocratie, veulent élire leurs députés, veulent choisir un député, quand ils ne sont même pas encore foutus de choisir leur femme, c'est leur mère qui le fait à leur place. Ça, c'est un petit exemple anecdotique, mais c'est vrai, les mères sont toutes puissantes dans nos sociétés.
Mesdames, messieurs, la parole est à la salle. Regardez, les mains se lèvent.
Je crois qu'il faut des micros, oui. Peut-être.
Il y a un monsieur à un micro. Là, il y en a 1, 2, 3.
Il y en a même
5.
Beaucoup.
Ouais. Bon, on essaie de les prendre les unes après les autres et de répondre. Et si les choses sont trop longues, après, on prendra des salves de questions. On va voir comment ça se passe.
Oui, merci beaucoup sur cette intervention.
Si vous avez la gentillesse de vous présenter chacun les uns les autres.
Parce oui, Michel Lévy, Michel Lévy, psychiatre, psychanalyste, originaire de Constantine. Bon.
De Constantine.
Voilà. une question. On est tous d'accord pour dénoncer les barbaries que vous avez énumérées. C'est plus facile de combattre les choses quand on peut les expliquer. Est-ce que vous avez quelques mots pour m'aider à comprendre cette hyper-réaction violente, caricaturale, d'un islam extraordinairement brutal? Comment expliquer cette éclosion? C'est plus facile de lutter quelque chose qu'on comprend.
C'est-à-dire, comment expliquer cette brutalité des hommes arabo-musulmans, c'est ça?
Voilà, parce que c'est en train de monter, cette affaire-là.
Ah oui.
Donc,
oui.
Qu'est-ce qui fait que ça monte à ce point? Quelle est votre idée sur cette réaction caricaturale de l'islam?
Alors, moi j'ai... Bon, il y a deux explications. Il y en a une au premier degré. Vraiment au premier degré, surtout en Tunisie, qui vaut surtout pour la Tunisie, où les hommes, depuis 50 ans, et l'avouent... vraiment tout à fait franchement, se sont sentis horriblement frustrés d'avoir vu leur, ce qu'ils considèrent comme leur droit diminuer, amputer, etc., au profit de la femme. Et ça, moi, pendant 50 ans, j'ai vécu en entendant « on donne tout aux femmes, il n'y en a plus que pour les femmes, nous ne sommes plus des hommes ». Oui, c'était comme ça. Bourguiba vous a tout donné, puis même Ben Ali vous a tout donné. Nous sommes des sous-hommes, quoi. Bon. Et puis vient l'islamisme, depuis 30 ans, hein, il faut dire que bon, le message est en train de passer à travers les chaînes satellitaires, à travers les prêches dans les mosquées, à travers beaucoup de choses, disons, qui contredit un peu le message officiel. Le féminisme d'État, en disant tout ça, c'est pas très, très islamique, ce qui se passe. Donc, les hommes commencent à en prendre de la graine, etc. Et puis arrive la révolution. Et comme un collègue algérien me le disait hier, c'est pas par hasard que la révolution a commencé à Sidi Bouzid, par un nommé Bouazizi, puisque Sidi Bouzid Bou, il y a le terme de père. Bouazizi, c'est le père du grand-père. Donc on est vraiment dans les filiations, les généalogies. Le Mohamed Bouazizi qui s'est fait gifler par une femme. Bon, et ça a été l'étincelle. Ce n'est pas la cause de la révolution, évidemment. mais disons que c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Alors, donc ça, c'est au premier degré, et les hommes le disent aujourd'hui, hein, en Égypte en particulier, là où j'ai été, en Tunisie également, de dire l'heure de la revanche a sonné. Maintenant, les femmes, vous n'avez plus. Mais même moi, dans un taxi à Tunis, à mon âge, avec mes cheveux blancs, je me suis entendue dire, mais Hajj, parce que là-bas, quand on veut un signe de grand respect, c'est une femme de mon âge aurait dû faire le pèlerinage. Donc on appelle ça Hajj. Donc Hajj, vous devriez être à la maison, qu'est-ce que vous faites dehors? Donc maintenant, ça se dit, alors que je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Bon. Donc ça, c'est le premier degré. Évidemment, je ne m'arrête pas là, à ce premier degré. C'est ce que je vous ai dit, j'ai écrit tout un livre là-dessus, si ça peut vous intéresser. Il s'appelle « Les femmes et la discrimination ». Je l'ai publié chez Odile Jacob, « Dépression, religion, société ». Et moi, je pense que c'est dans cette première relation mère-fils, vraiment, qui est de nature quasi incestueuse, hein, bon, que se noue véritablement le drame. Une relation à laquelle le père assiste totalement impuissant et même complaisant. Complaisant, puisque tous les autres pouvoirs, c'est lui qui les détient. Et je crois que l'enfant reste dangereusement asservi à sa mère toute sa vie durant. Et il illustre à merveille le « Toutes des putes sauf ma mère ». Voilà. Ça, c'est un raccourci, hein, grosso modo. C'est parce que cette haine apparente des femmes couvre, comme disait Gustave Flaubert à propos des minorités, couvre manifestement une peur. Voilà, c'est la haine-peur.
Oui, madame. Oui, Brigitte Guinot-Nadal, psychologue. Alors, vous avez commencé à répondre à ma question. Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce que en Tunisie, vous pouvez faire cette même communication?
Je l'ai faite.
Hein, de la même manière.
Je l'ai faite.
Voilà,
oui.
Et quelles étaient les remarques, hein, j'aimerais un petit peu, ça m'intéresserait de savoir ce qu'on vous a renvoyé. La deuxième question, justement, vous commencez votre propos en vous appuyant sur des photos très fortes, hein, qui mettent, qui nous font résonner, hein, de manière émotionnelle, ces femmes comme ça, même en. C'est très violent. Hein. Mmh. Et vous commencez le débat en parlant justement de la place prépondérante des femmes et de la violence. Hein. Donc, vous avez commencé à y répondre et comment on peut lier, hein, lier ces deux situations. Enfin, je crois qu'on est vraiment au cœur du problème, là, hein, par rapport à ce climat incestuel, enfin, à la haine. Hein, quelle réponse il y a de la part des hommes? Enfin, j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus.
Alors, donc, j'ai déjà fait cette conférence à la faculté de médecine de Tunis. Mais malheureusement, c'est toujours devant des publics choisis, pratiquement conquis d'avance. Je n'ai jamais eu, si c'est ça votre question, et moi-même je le souhaite, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler devant un public de salafistes. Devant Tariq Ramadan, devant un public de femmes. Etc. Bon, je n'ai pas eu d'autres remarques que les mêmes que les vôtres, Bon, à part vraiment à la fac de médecine, il y avait quelques jeunes filles voilées, mais le voile c'est autre chose. Hein. C'est pas le niqab, c'est le simple voile et elles-mêmes le disent quand elles se lèvent pour prendre la parole. En disant, madame, écoutez, c'est pas parce que je suis voilée que j'en pense pas moins comme vous. Ça, voilà, ça c'est une autre paire de manches, on en discutera plus tard. Alors, pourquoi finalement les femmes se laissent-elles... Le plus grand mystère pour moi, ce sont les femmes. Effectivement, c'est la réaction des femmes ou l'absence de réaction des femmes. Mais je crois que les femmes, elles, justement, contrairement aux garçons... souffrent et de l'absence du père et de l'absence de la mère. Et elles passent leur vie dans une espèce de quête avide, d'une recherche de reconnaissance, fût-ce de complémentarité. Bon, fût-ce que, moi, je les vois comme ça parce que je m'explique mal disons, leur véritable complaisance. Et même, à la limite, parfois, leur activisme, encore plus que les hommes, justement, à défendre un statut inférieur pour les femmes, comme je vous citais tout à l'heure la vice-présidente de la Constituante, qui est une franco-tunisienne, née et élevée en France.
Oui, bonjour, Mustapha Meslem.
Oui.
Merci, madame Douki de Dieu, de rappeler. Donc, c'est moi l'ami qui était avec vous, là, originaire d'Algérie, pas, comme, pas de Constantine comme Michel Lévy, mais d'un port qui a été capitale de la France, Alger. Je suis arrivé dans un port, Marseille, et je vis dans un port, Le Havre. J'aime le grand large. Hein, donc, moi, ce que je vous disais, effectivement, j'avais fait cette intervention au Cercle Condorcet, d'ailleurs, oui, qui m'avait sollicité pour parler des révolutions arabes. Et j'avais parlé, moi, en disant, je vais aborder avec vous non pas des aspects simplement, je dirais, sociologiques, mais aborder la dimension subjective. Hein, et c'est pour ça que j'avais fait ce lien entre Bouazizi, Bouazidi, tout ça. Et je suis parti dans cette direction-là. Et la question qui m'était posée aussi à un moment donné, c'était qu'est-ce qui fait que il n'y a pas eu de soutien par rapport à la révolution, ce qui se passait en Tunisie. Et puis en plus, il se trouve que nous étions avec des amis, une amie qui était là, au moment où il y avait cette révolution en Tunisie, nous étions à un congrès euro-maghrébin de médecine générale à El Oued. El Oued, qui est à côté de Tozeur, c'est à ce moment-là où ça se passait. Et moi, je pense, mon avis, je veux dire, il y a eu quelque chose de la part de ce qu'on appelle les pays du Nord, un fonctionnement un petit peu comme nous a expliqué Ferenczi. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que ça puisse venir de ces gens-là. Comme la mère à qui sa fille vient de dire, ou son fils, j'ai été agressé par toi, ce n'est pas possible. La confusion des langues, l'identification à l'agresseur. D'où la réponse de Mme Michèle Alliot-Marie, hein, par rapport à Ben Ali, je dirais. Donc il y a eu de la part de cela, je veux dire, c'était impossible que ça vienne de là. Impossible. Alors que, quand même, quand quelque chose s'est fait au niveau de, je dirais, l'Europe, par exemple, Solidarność, personne ne s'est posé la question et a posé le bas sur Solidarność, alors que derrière tout ça, il y avait l'Église catholique polonaise, avec ce qu'il y a de plus antisémite, hein, et tout le monde l'a fait. Alors c'est évident que cette dimension-là, c'est important de la soutenir et de voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui traverse comme ça, de cette manière, qui fait que, après, bien sûr, tout le monde va y trouver son petit grain, son petit pain. Hein, qu'il soit au chocolat ou pas, hein, pour vendre. Donc, et cette transformation qui s'est faite, elle est de cet ordre-là, il me semble. Hein, et parce qu'il y a eu aussi une confusion entre la question de l'égalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup abordé, et la symétrie. Ce n'est pas parce qu'on est égaux qu'on est symétrique. Je crois qu'il y a eu une confusion considérable, ça, à tous les niveaux, hein, qui fait qu'il y a des confusions aussi, des places et des rôles que vous soulevez. L'autre élément, ce n'était pas les oiseaux des terrasses, c'était l'enfant des terrasses.
L'enfant des terrasses.
L'enfant des terrasses.
Hein, en arabe,
je rectifie.
En arabe, c'était Asfursta.
Asfursta.
J'ai traduit l'arabe en français.
C'est l'enfant des terrasses. C'est l'enfant des terrasses. Pour ce qui est, voilà. Moi, je pense que, c'est, avec toutes les. C'est vrai qu'il y a une question de l'horreur, mais quand même, c'est quand même extraordinaire, je dirais. Dans tous les pays du monde, et surtout dans les pays où les femmes souffrent le plus. Quand on fait la courbe des âges, les femmes vivent plus longtemps que les hommes.
Quand elles ne sont pas tuées, oui.
Quand elles ne sont pas tuées. Non, mais je veux dire, quand on prend l'intégralité, ça veut dire que le sexe fort, peut-être, il est de l'autre côté. Ce n'est pas simplement dans ce que certains ont glossé en faisant du psychanalyse, la question de, hein, qu'il manque un peu, mais il y a autre chose. Et je voudrais juste terminer par rapport à ce que vous dites, parce que vous avez cité ça, c'est il y a aussi un hadith qui dit ceci, parce que du prophète qui dit le paradis est aux pieds des femmes.
Oui, et sous les talons des mères.
Sous les talons des mères. Sous les talons des mères. Sous les talons des mères. Voilà. Merci.
Oui, oui, ce sont les mères qui ouvrent les portes du paradis.
Madame.
Bonjour, Milena Vienkel, médecin généraliste.
Je ne vous ai pas entendu.
Oui, Mylène Avenkel, médecin généraliste à Paris. Là, actuellement, j'ai travaillé 5 ans en PMI et c'est vrai que votre exposé m'a beaucoup bouleversée parce que ça m'a fait penser à tout plein de questionnements qui m'ont traversée sur ces dernières années. J'ai fait une thèse sur l'excision en référence effectivement à la misogynie du milieu médical à Paris où effectivement on est confronté énormément à des femmes excisées, mais non, on n'a eu aucun cours sur l'excision et la façon de l'aborder, de le dépister, d'aider les femmes et les enfants. Et c'est vrai qu'il y a deux questions qui me tracassent beaucoup actuellement en tant que médecin généraliste travaillant dans des quartiers populaires, ayant travaillé en Seine-Saint-Denis où il y a une forte composante immigrée de la population.